Sell me up. T'es gros.
Viens, je te fais des problèmes.
Elle est moche.
T'as pas d'amis. Père que c'est dégueulasse. Je sais pas comment ma sœur elle fait pour ton ami.
Je me demande qui voudra de cette fille.
Que les enfants sont cruels. Nous avons tous entendu ces pics lors de notre enfance ou adolescence sur les bancs de l'école. Intimidation, isolation, moquerie à répétition peuvent être le quotidien d'élèves victimes de harcèlement moral à l'école. Un calvaire pour un jeune en construction. Une récente étude publiée en 2014 par l'Université catholique de Louvain nous révèle que 1 élève sur 5 est victime de harcèlement moral dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en ressort que le phénomène de harcèlement moral touche toute classe sociale, toute origine socio-culturelle confondue. Sophie vient d'une école élitiste de la capitale. Elle a fait les frais du harcèlement pendant ses humanités.
Les problèmes ont vraiment commencé en deuxième secondaire, quand j'ai commencé à me faire embêter par une bande de garçons de ma classe et qui en fait faisaient le même trajet que moi pour rentrer chez eux et tout le long du trajet se moquaient un peu de moi, oui, rigolaient, je ne sais plus exactement ce qu'ils disaient, c'était surtout une attitude en fait envers moi. Puis après, en troisième secondaire, je me suis retrouvée isolée de mes amis en fait, puisque j'étais dans une classe où je ne connaissais personne. J'étais toujours quelqu'un de très timide, donc j'avais du mal à nouer des liens avec des gens. Surtout que les gens n'étaient pas spécialement avenants avec moi en fait. Et donc de ce fait, de cette isolation-là, j'ai vraiment développé une sorte de phobie scolaire.
Sophie a connu les moqueries et l'isolation. Le harcèlement n'est pas que des attaques verbales, mais c'est aussi des jeux de relations malsaines. En 2 ans de harcèlement prolongé, les symptômes de mal-être sont apparus chez Sophie. Les angoisses s'accumulent au fil des frustrations et l'école devient un endroit à fuir.
Un jour, j'ai pas pu aller à l'école. J'ai vraiment pas pu et j'ai fugué, en fait. Je suis partie de chez moi. C'est une fugue qui a duré une seule journée parce que finalement, je suis rentrée. Mais suite à cette fugue, je n'ai pas été à l'école pendant 2 mois. Donc j'ai suivi une psychanalyse, en fait, pendant ces 2 mois, parce que j'étais totalement incapable de retourner à l'école. Alors évidemment, j'ai failli doubler ma troisième, hein, parce que quand on rate 2 mois d'école, c'est quand même embêtant. Donc là, j'ai eu de la chance, et puis en quatrième secondaire, ça a été un peu mieux. Donc là, j'ai vraiment pu reprendre ma scolarité.
Tu restais chez toi, il n'y avait vraiment pas moyen de retourner à l'école?
Oui, donc pendant 2 mois, j'étais vraiment chez moi. Je refusais, donc je disais à mes parents, moi je vais plus à l'école, quoi. C'était pour moi impossible. Mais pour moi, l'école, c'était un peu comme une sorte de monstre, quoi. C'était vraiment une phobie, quoi. C'était plus fort que moi. Je pouvais vraiment, mais vraiment pas y aller.
Le harcèlement à l'école n'est pas que verbal ou relationnel, mais peut-être aussi physique. Khadija est sortie d'une D+, une école dite à discrimination positive. Le harcèlement perturbe la classe un moment, mais le souvenir est encore frais dans l'esprit de Khadija, toujours marqué plusieurs années après.
La prof m'a posé une question. J'ai levé la main, elle m'a dit oui. J'ai répondu. Et donc du coup, j'avais une autre question à lui poser par rapport à sa propre question. Et la fille, donc je me souviens, j'étais tout au fond de la classe, elle était tout devant, et elle me dit soudainement, je suis désolée des mots que je vais employer, mais je la cite, « Ta gueule, mais ta gueule, pourquoi tu l'as toujours faire de ton intelligente ?» Et donc, elle s'est levée, et elle m'a dit « Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai fait « Mais je n'ai strictement rien à faire, je comprends pas ta réaction. » Et elle m'a empoignée, m'a jetée contre les porte-manteaux qui étaient accolés au mur, et elle s'est mise à me taper dessus. J'ai fouillé vers le devant de la classe, là où elle s'est continuée à me taper dessus, devant l'œil du professeur impuissant. Et je lui ai dit, mais madame, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Le fait qu'elle m'ait tapé la tête contre le mur, j'étais en fait un peu... j'étais dans les vapes. J'étais dans les vapes. Et la prof, elle me dit, oui, mais déjà dans une dispute, il y a toujours 50-50. Alors, je sais pas si elle a voulu m'éduquer à ce moment-là pour me dire que dans les disputes, on est à 50-50. Franchement, j'en avais strictement rien à foutre de son éducation à ce moment-là.
Selon les psychiatres, les auteurs de harcèlement vampirisent l'estime et la confiance de la victime pour se l'octroyer. Khadija, tout comme Sophie, ont connu le pouvoir du groupe qui légitime le harcèlement aux yeux des autres et qui donne feu vert aux harceleurs. Les témoins du harcèlement en sont aussi responsables, car ils le valident par leur participation ou leur silence. Par effet de masse, seule contre tous, la victime se retrouve impuissante.
Elle jouissait très très clairement de sa position de pouvoir et de force. Et moi j'étais, j'étais seule contre tous, j'avais pas beaucoup d'alliés, mais c'était moi le problème. Aller chercher l'erreur. Mais où est donc Ornicar, j'ai envie de dire. Et voilà, et ça s'est resté comme ça. Mais tous les autres jouissaient également de voir se disputer. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Aller venir comme ça rire ou encourager ce type de comportement et vraiment jouir, en fait, de voir quelqu'un se faire tabasser dessus. Faut être complètement malade.
Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le harcèlement moral à l'école ? Pour nous éclairer sur le phénomène du harcèlement scolaire, cap à l'UCL, pour rencontrer le chercheur Benoît Galland, où il enseigne à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. En Belgique francophone, il est considéré comme l'expert de la question du harcèlement entre élèves.
Nous arrivons à Louvain.
Donc le critère de répétition, il est assez facile à établir, mais il est discuté, parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, mais... est-ce qu'il ne suffit pas d'une fois un événement un peu marquant ou qui peut être traumatisant pour qu'il y ait des conséquences chez la personne ?
C'était tous les jours, enfin quasi tous les jours, quoi. Si on sortait de l'école en même temps, il me suivait et si on était sur le même chemin, c'était sûr qu'il m'embêtait. Ça, il ne pouvait pas marcher tranquillement à côté de moi. Donc là, c'était vraiment constant chez constant en deuxième secondaire.
Le critère d'intentionnalité, en fait, est surtout là pour distinguer ça d'un accident ou de choses qui arrivent un petit peu, par hasard.
Aussi, j'avais un peu trop de poids, donc, enfin, c'était vraiment, j'étais le mouton noir, quoi. Donc, j'ai remarqué vraiment, les enfants sont vraiment méchants entre eux.
Ici, il y a une forme d'agression, mais en fait, on n'est pas sûr du tout que le but, c'est vraiment de nuire à autrui. L'idée, c'est pas nécessairement de faire du tort. Si je commence à vous harceler moralement, c'est pas nécessairement parce que je vais vous faire souffrir ou je vais vous faire de la peine. C'est juste aussi parfois parce que je veux me valoriser aux yeux des autres ou simplement obtenir des choses de vous. Troisième critère qui est celui du déséquilibre de pouvoir, en tout cas perçu.
Oui, à un moment donné, quand on s'en prend à plusieurs sur une personne sans défense, ça s'appelle du harcèlement.
Il est intéressant dans le sens où il montre que le harcèlement, pour qu'il y ait situation de harcèlement, c'est souvent parce qu'en fait la victime, elle ne sait pas très bien comment faire que ça s'arrête. En même temps, par définition, si la victime n'arrive pas à faire en sorte que ça s'arrête, c'est justement parce qu'elle ne voit pas comment en sortir. En général, ce n'est pas répétitif et ça ne s'installe pas dans la durée quand la victime, elle sait comment réagir et comment mettre fin à ça.
Déscolarisation, absentéisme, baisse de résultats, changement d'école sont des exemples d'une scolarité perturbée par le harcèlement. Bruno Humbeek, psychopédagogue et chercheur à l'Université de Mons, explique que le harcèlement moral à l'école engendre tout d'abord des conséquences sur la psyché, l'émotionnel de l'élève, qui aura ensuite des impacts sur ses capacités cognitives et donc sa scolarité.
Les conséquences, c'est le décrochage, mais par le biais notamment d'un affaissement de l'estime de soi. L'enfant n'ose plus apprendre parce qu'il est plus préoccupé par les apprentissages. Il a une image de lui... qui se détériore, il a un amour de lui qui est mis en difficulté et une connaissance de lui-même, parce qu'effectivement on a affaire à des enfants, et notamment en secondaire, des enfants qui ont une construction identitaire relativement instable et qui, lorsqu'ils sont harcelés, vont voir tout ça s'effondrer. Et donc l'estime de soi, à travers ces trois socles que sont l'image de soi, l'amour de soi et la connaissance de soi, va s'affaisser d'un coup et créer ces perturbations graves qui peuvent effectivement l'amener l'enfant à ne plus oser apprendre.
Est-ce que des élèves décident de changer d'école suite à ces harcèlements ?
Alors, ce n'est pas toujours le bon plan, parce que généralement, ils partent avec leurs problèmes et qu'ils vont reproduire la même situation dans une autre école. Donc, l'idéal est quand même d'abord de trouver des solutions à l'intérieur de l'école. C'est pour ça qu'on organise, nous, des travaux qui permettent d'organiser la prévention du harcèlement dans toutes les écoles, parce qu'on sait qu'un enfant qui sort de la situation ne risque pas de la reproduire, alors qu'un enfant qui échappe à la situation, notamment en changeant d'école, risque de la reproduire ailleurs.
Et y a-t-il des absences, de retard aussi, comme on se pose ?
Décrochage scolaire sous toutes ses formes, donc ça va de l'ennui, c'est-à-dire l'enfant qui décroche, qui n'écoute plus ceux qui lui parlent, notamment ses enseignants, à l'enfant qui disparaît complètement du circuit scolaire. Donc le décrochage scolaire, c'est un continuum qui va de l'ennui à la disparition pure et simple du circuit. Tous les types de fuites sont possibles. La fuite ultime, c'est quand même, il faut toujours en parler, c'est la tentative de suicide, qui est quand même fréquemment associée aux situations de harcèlement. Quand ce sentiment d'impuissance devient du désespoir, et qu'il se transforme en désespérance, là, il y a un vrai risque de passage à l'acte suicidaire, notamment chez l'adolescent, plus que chez l'enfant.
Mais qu'est-ce qu'il en est des professeurs ? Arrive-t-il à détecter le harcèlement ? Selon les dires du milieu professoral, les équipes éducatives ne seraient pas bien formées pour agir face au harcèlement entre élèves. Amélie, professeure de français, a enseigné dans plusieurs écoles secondaires de Bruxelles. Elle confirme un manque de formation face à la problématique du harcèlement.
C'est une école qui était assez difficile, où il y avait beaucoup de violence, que ce soit entre les élèves ou élèves
vers les professeurs. Et donc là, il y a eu un cas de harcèlement que j'ai remarqué assez tard dans l'année. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a des élèves qui se bagarrent en classe, on a tendance à plus se focaliser sur ce genre de problème, d'esquiver les choses qu'on nous balance à la figure, etc. Donc j'ai remarqué assez tard aussi parce que les élèves étaient, faisaient ça en douce, en fait. Ils ne faisaient pas de manière très visible. Quand ils passaient à côté de l'élève en question, ils lui soufflaient un petit mot comme ça, l'air de rien, mais qui faisait mal. Et on a aussi remarqué que cet élève a chuté dans ses résultats scolaires.
Il faut dire que le harcèlement à l'école est un phénomène invisible. Cela peut prendre place à la cantine, aux toilettes, à la cour de récréation ou dans les couloirs. Et en classe, les agresseurs plutôt habiles agissent sans se faire prendre.
Pensez-vous que vous êtes assez formé en tant que professeur pour répondre à ce genre de problème ?
Non, pas du tout. Enfin, en fait, on ne parle même pas de harcèlement à l'agrégation ni rien. On n'a pas eu de formation. On a fait des formations pour tout ce qui est violence, conflit, mais pas vraiment pour ce qui est harcèlement. En règle générale, il vaut mieux rediriger vers les éducateurs. Le problème, en l'occurrence, est en classe. Et donc, on devrait savoir mieux gérer ça et savoir comment réagir. Mais non, on ne sait pas.
Je me rends à l'Athénée Robert Cato à Bruxelles pour rencontrer Sabine Dano, professeure de néerlandais. La situation du harcèlement la touche beaucoup. Elle est active au sein de son école, en dehors de ses heures de cours, pour lutter contre le phénomène.
Il y a naturellement des élèves, quand ils sont vraiment harcelés, qui ne viennent plus à l'école, qui sont systématiquement malades. C'est par exemple aussi un des signes quand il y a quelqu'un qui est très très souvent absent, quand même aller un petit peu gratter pour voir quel est le problème. Est-ce que c'est vraiment malade, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe parce que quelqu'un qui est ennuyé n'aime plus venir à l'école.
Elle prend sous son aile les adolescents victimes de harcèlement dans l'école. Un de ces petits derniers, Brian, 14 ans, s'en est remis du harcèlement.
Est-ce que tu n'arrivais pas après à te concentrer sur tes études ou...
Non, parce que c'était à chaque fois des mots, mais bon, à chaque fois des mots, les mots ils restent dans la tête et s'il faut suivre et en même temps les écouter, on ne sait pas faire 10 choses en même temps. On m'a insulté de ma couleur des cheveux, on m'a insulté un peu de tout, quoi. Et c'est ça, moi, je crois que c'est pour ça que j'ai raté ma première.
Tiens, est-ce que ça a des conséquences sur la scolarité ? Lui, il dit oui. Quand on est gentil au départ, on dirait vraiment que ça attire les gens qui disent « Ah ben ça, c'est un gentil, on va un petit peu jouer avec, comme avec une balle. » Cette perte de confiance, je me rappelle toujours, hein, le petit oiseau, il avait perdu confiance, même quand tu répondais, avoir peur de donner une mauvaise réponse et de la réaction des autres. Donc ça t'avait quand même fort, fort marqué. Enfin, je dois dire que tu t'es bien.
J'avais peur de donner des mauvaises réponses et après qu'on se foute de moi. Maintenant, avec le temps, j'ai appris que les erreurs, ça ne serait pas après.
Quand on a des résultats comme ça, alors ça vaut la peine de donner de son temps. Vraiment, d'être là. Et il n'y a pas plus grande satisfaction, je trouve, que voir que des élèves qui n'étaient rien sont devenus quelqu'un. Et ça, c'est super chouette, hein. Un grand.
Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous.
L'estime de soi est importante pour faire face au harcèlement. Jean-Marie Gauthier, pédopsychiatre et enseignant à l'Université de Liège, confirme que le harcèlement nuit d'abord à l'intégrité psychique et s'inscrit dans le rapport à l'autre.
La conséquence la plus grave, c'est le fait que les enfants ont l'impression que les autres ont raison. J'ai eu récemment un adolescent qui était victime de harcèlement et qu'il était, on disait qu'il était nul, etc. Bon, et je lui ai demandé, est-ce que toi tu penses que tu es nul ? Il m'a dit oui. Donc il y a une intériorisation de l'image que donnent les autres de vous-même. En ce sens que, voilà, si on se fait si partout on a le message qu'on est nul, on finit par le penser. Et donc on a une chute catastrophique de l'estime de soi. Et dans certaines situations, ça peut entraîner des phénomènes dépressifs, parce que la dépression est aussi liée à l'incapacité d'intégrer un groupe. Et ça peut conduire au décès, au suicide, bien sûr. On ne définit pas sa propre identité sans le regard des autres. Donc si le regard des autres est toujours négatif, on finit par douter de soi aussi. Et à ce moment-là, oui, ça, je veux dire, c'est une intériorisation de la dévalorisation qui est catastrophique. Oui. Si vous voulez, il y a un renforcement de la vie des autres face au moindre échec, face à la moindre difficulté. Donc forcément, on finit par se décourager, avoir des échecs scolaires, etc. Et oui, vivre de plus en plus replié. Il y a beaucoup d'adolescents, par exemple, qui préfèrent rester enfermés chez eux, qui ne fréquentent plus l'école, etc., de peur de se faire harceler. Donc ça entraîne de diverses manières, soit parce qu'on ne travaille plus, soit parce qu'on n'écoute plus, soit parce qu'on est harcelé en classe et qu'on est dans un état émotionnel qui ne permet pas d'écouter les leçons. Tout ça sont des potentialités. L'autre potentialité est de rester à la maison, de refuser d'aller à l'école, ce qu'on voit régulièrement.
Un adolescent victime du lynchage de ses camarades de classe, vers qui peut-il se tourner pour chercher de l'aide ? Les personnes ne manquent pas, la victime peut se confier à ses professeurs, ses éducateurs, au médiateur scolaire ou à l'équipe mobile, ou au sein du centre PMS de son école. Mais il arrive que ces acteurs de prévention soient inefficaces pour l'élève, il se peut même qu'il n'en ait jamais entendu parler. Le jeune se sent honteux de ce qui lui arrive, il culpabilise, s'ajoute à cela la loi du silence. Pour ne pas passer pour une balance, l'étudiant s'enferme dans son mutisme, encaisse et attend que cela passe. Et il peut arriver que le jeune, lui, craque.
En primaire, j'étais assez seule, puis bon, même, ça, je pense que ça a fortement contribué à des problèmes que j'ai eus par la suite d'ordre psychiatrique. Enfin, ça n'a certainement pas aidé ou facilité mon passage à l'enseignement secondaire. C'est vraiment au niveau du secondaire, ça a commencé à foirer.
Qu'est-ce qui s'est passé en secondaire ?
Ben donc, je suis arrivée en première secondaire et j'avais absolument aucune idée. Enfin, ça va peut-être paraître bateau, de comment me faire des amis. Alors, je ne sais même pas si c'est vraiment un truc qui existe, en fait, de savoir comment se faire des amis, bref. Mais bon, j'étais très isolée, puis j'avais une grosse... des problèmes de ce qu'on appelle phobie sociale, phobie scolaire. Alors, j'arrivais à me concentrer sur le travail. J'ai toujours plus ou moins réussi à me débrouiller d'un point de vue académique. Mais le problème, c'est que j'avais tellement de soucis avec les rapports sociaux que finalement, je suis arrivée à un point où en fait, je ne pouvais plus aller aux cours. Et donc, dans mon cas, j'ai dû être hospitalisée en pédopsychiatrie. L'hôpital des enfants, ce qui fait que j'ai terminé ma première année en dehors de l'école.
Je me suis rendue à l'unité psychiatrique du centre hospitalier pour adolescents des cliniques Saint-Luc. Ce centre héberge des jeunes en difficulté psychiatrique pour 14 places d'une période de 3 à 9 mois. Nombreux parmi les pensionnaires ont été les victimes de harcèlement à l'école. Je n'ai pas eu l'autorisation de parler aux adolescents. Le corps médical préfère ne pas perturber leur processus de guérison et de réinsertion. Isabelle Primo, psychologue depuis 18 ans au centre hospitalier, en a vu défiler des jeunes détruits par le harcèlement.
Presque tous nos jeunes sont en décrochage scolaire depuis au moins 3 mois, parfois depuis 2 ans. Et souvent, dans ce décrochage, survient une histoire de harcèlement à l'école qui, quelquefois, le jeune parvient à tenir 1 an, 2 ans, et puis il craque complètement après. Ou c'est des choses qui sont arrivées à la préadolescence, entre 8 et 10, 12 ans. Et quand ils arrivent à l'adolescence, ils craquent parce qu'il y a des choses. Ils ont perdu confiance en soi, ils ont des peurs, ça se transforme en phobie scolaire. Et ils ont en général peur des autres, peur des jeunes de leur âge. Et donc la thérapie que nous faisons, qui est une thérapie institutionnelle avec une vie communautaire, leur permet de travailler le lien avec les autres. Et donc, en général, parfois, il se reproduit dans le groupe ici un phénomène de bouc émissaire, de jeunes qui ont été bouc émissarisés ou maltraités ou harcelés à l'école. Et ça se rejoue ici dans le groupe, mais comme on est au courant et le personnel est au courant, on lui permet d'apprendre à se défendre au sein du groupe. Donc ils sont vraiment orientés vers un travail relationnel, adulte, jeune, très serré, parce qu'il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes, et ça c'est notre outil de travail. C'est quand le jeune devient bouc émissarisé ou a peur du groupe, alors on reparle avec lui ou on discute avec lui et un autre jeune. Donc on lui apprend aussi à se défendre. C'est des jeunes qui ne savent en général pas très bien se défendre ou qui ont une enfance un peu calme et un peu protégée et qui sont surpris, surtout au moment du passage du primaire au secondaire.
Et ces jeunes, chez vous, sont en déscolarisation totale oui. ou est-ce qu'ils prennent des cours à distance et non. restent ici?
Dans notre service, on a choisi, puisqu'ils sont déscolarisés et que le problème est vraiment une peur d'apprendre, une peur des autres, on se dit qu'il faut d'abord traiter la peur et puis postposer. Surtout chez nous, s'ils sont déjà depuis un an en déscolarisation, ou deux ans, qu'est-ce que ça fait il vaut mieux passer 6 mois à travailler le problème qu'essayer à tout prix de continuer à leur donner des cours. On fait des activités culturelles et pédagogiques pour garder l'esprit en éveil et en curiosité, ou le réveiller s'il a été endormi par la maltraitance.
Mais avant d'en arriver là, que des jeunes se trouvent déscolarisés et présentent des symptômes psychiques lourds, que peut-on faire? Ce qui est reproché à la prévention en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas de politique claire et globale. Le traitement du harcèlement est laissé à la guise d'initiatives individuelles, parfois inadéquates et peu efficaces. Au ministère de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on promet une meilleure formation des professeurs et des acteurs de prévention. Étienne Jokir, un des conseillers du cabinet, nous a reçus. Il nous confirme que la politique actuelle travaille dans la mise en place d'une prévention structurée et globale face au harcèlement scolaire.
Monsieur Jokir, voilà. Bonjour, Safia Dumel.
La difficulté majeure aujourd'hui, c'est pas le manque d'investissement, c'est le morcellement des investissements. C'est-à-dire qu'on dissémine les morceaux, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu ceci, un petit peu cela. Et donc, il y a un manque de cohérence. Il y a un manque d'harmonisation entre ces choses-là. Donc, le travail fondamental à faire, c'est d'essayer de faire en sorte que les acteurs entre eux, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des réseaux d'enseignement, que ce soit au niveau du pouvoir politique aussi, aujourd'hui, même en termes de politique de lutte contre la violence, c'est une politique qui est morcelée. Ce n'est pas que la ministre de l'Enseignement qui en décide. C'est aussi la ministre de la Santé, la ministre de la Jeunesse, la ministre de l'Aide à la Jeunesse, les acteurs provinciaux, les acteurs communaux, les acteurs fédéraux. C'est ce morcellement qui pose problème. Ce n'est pas tant le manque de moyens, c'est le fait que les moyens sont dispersés et que, un peu à l'image des enseignants qui prennent parfois des initiatives un peu locales et puis que ça reste une initiative d'une personne ou l'autre et que ça ne devient pas un projet d'établissement, mais on a une multiplication des initiatives de quelques personnes, de quelques acteurs, mais on n'a pas, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, un projet fort et cohérent de prévention de la violence, particulièrement en milieu scolaire, mais aussi dans les autres milieux de vie. Et c'est ça qui est important de développer au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je pense que les décrets sectoriels, et surtout le décret intersectoriel, participent de cette définition d'une politique globale, cohérente, commune entre acteurs, même si le chemin restera encore long et qu'il faudra absolument poursuivre dans cette direction-là.
L'humanité, elle est gratuite. T'as pas besoin d'être payé pour ça. Être humain, c'est gratuit. Moi, je pense que l'école, aujourd'hui en Belgique, elle a perdu son humanité. Très clairement. Elle a énormément perdu de son humanité. L'école est morte aujourd'hui. En Belgique, il n'y a plus rien qui se passe en fait. Mais je pense que ça c'est aussi... Moi je pense que justement ce harcèlement moral qui est silencieux, c'est l'un des symptômes d'une école qui ne va plus. Le système en enseignement, l'enseignement en Belgique ne va plus. Ce n'est pas une question de moyens. Je ne pense pas que c'est uniquement une question de moyens. C'est aussi une question de bon vouloir. Après les moyens suivent, mais il faut d'abord un bon vouloir. Et ce bon vouloir, moi, je l'ai pas vu.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.
Le harcèlement moral à l'école est un phénomène vieux comme l'école, donc, mais la conscientisation du problème est neuve. Si certains sont actuellement déçus du système de lutte contre le harcèlement, des jours meilleurs sont à venir pour améliorer la prévention. Il est possible de limiter les dégâts et les risques de conséquences néfastes sur nos enfants.